Je vous propose d'enchaîner tout de suite donc avec René Boucher. Simplement rappeler que René Boucher, donc, outre le fait, Michel Volkovitch l'a rappelé, qu'il a traduit donc, les livres de Yanis Kurtzakis, est par ailleurs donc, un grand spécialiste de la littérature grecque moderne, et en particulier d'Alexandre Papadiamantis, sur lequel il a construit sa thèse. Et donc, il va nous parler de la naissance de la littérature grecque moderne, notamment à travers la figure de Papadiamantis et également de Vicinos. Voilà. Merci beaucoup, René Boucher.
Nous allons faire un détour de plus d'un siècle vers le passé. Un peu paradoxalement, dans cette manifestation consacrée aux écrivains grecs face à la crise actuelle, j'ai envie de dire pourquoi pas, parce qu'après tout, la Grèce souffre d'être vue dans le grand public comme associée exclusivement à l'Antiquité ou au temps présent. Et bien sûr, la Grèce n'a pas, la culture grecque n'a cessé de vivre pendant des siècles et des millénaires. Revenir en arrière, ma foi, d'un siècle, ça ne me paraît pas si grave. Ça a la vertu de montrer qu'on écrivait déjà au XIXe siècle en Grèce. Mon propos ne sera pas de dire que, de toute manière, que rien n'est nouveau sous le soleil grec. Hein. On pourrait, je n'en ai pas le temps ici, poser un certain nombre d'analogies entre la Grèce du XIXe siècle, soumise à la tutelle de ce qu'on appelait les puissances protectrices, au premier rang desquelles la Grande-Bretagne, la France, la Russie, et la pression, si je puis dire, que l'Europe, l'institution, exerce aujourd'hui sur ce pays. Ces analogies auraient des limites. Non, ce que j'entends vous montrer, à partir de l'exemple de deux écrivains, c'est que, pour un auteur, au XIXe siècle, le rapport à la culture occidentale était fondamental. Et je vous invite à le lire à travers deux, trois fictions écrite par ces deux auteurs, Alexandros Papadiamandis, que je vais franciser son usage en Papadiamantis, si vous voulez bien, et Yorgos Vizinos, Georges Vizinos. Ces deux auteurs, je les ai choisis pour plusieurs raisons. D'abord parce que je les connais, bien sûr, mais aussi parce qu'ils sont traduits, donc Papadiamantis au moins partiellement, Vizinos, qui n'a écrit que peu de nouvelles, hein, 7 ou 8, entièrement, dans une traduction de Gilles de Corvée, éditée sous le titre Sortilèges et Maléfices, aux éditions La Découverte, que vous trouvez à la librairie ici. Donc deux auteurs que vous pouvez lire en français, et deux auteurs qui ont le mérite d'être strictement contemporains. Vizinos est né en 1848, Papadiamantis en 1851. Sans doute se sont-ils connus à Athènes, même si nous ne disposons d'aucun témoignage à ce sujet. Deux auteurs qui ont pratiqué le même genre littéraire, la nouvelle. On peut dire de ces deux écrivains qu'ils sont les nouvellistes majeurs du XIXe siècle grec. Et pourtant, deux auteurs qui, dans leur biographie comme dans leur œuvre, sont des auteurs qui peuvent apparaître strictement opposés. Hein. Papadiamantis, sédentaire, qui n'a jamais franchi les frontières de son pays, qui a vécu dans son île natale, Skiathos, puis à Athènes, puis encore les deux dernières années dans son île natale, et qui a inscrit dans son île et dans cette ville d'Athènes, dans certains de ses quartiers, la totalité de son œuvre, ou quasiment. Vizinos, qui a voyagé, qui a fait des études à l'étranger, en Allemagne, et dans les nouvelles, je vous en mentionnerai deux, nous font voyager aussi. Donc, deux auteurs dont le rapport à l'Europe peut sembler tout à fait différent. Nous allons voir, j'espère, que En fait, ce rapport est également problématique pour ces deux écrivains. Commençons par Papadiamantis, si vous voulez bien. Donc un auteur qui a écrit jeune, trois romans qu'on peut qualifier d'historiques, sans doute à tort. Hein. C'est un peu la queue de la comète de ce genre, le roman historique, qui a eu partout en Europe et en Grèce en particulier, qui a connu une certaine vogue, hein, après Walter Scott, hein, bien sûr. En Grèce particulièrement, parce que, ma foi, c'était un véhicule commode pour diffuser l'idée nationale, hein, en exaltant les combats des Grecs contre les Turcs, ou les combats de Byzance contre les différents envahisseurs. Et donc, trois romans écrits de 1879 à 1884, souvent négligés par la critique, c'est d'eux que je vais vous parler aujourd'hui. Après quoi, Papadiamantis délaisse complètement le roman. On a pu parler de la palinodie, hein, palinodie en grec de Papadiamandi, pour écrire 170 à 180 nouvelles, toutes inscrites, circonscrites, j'ai envie de dire, pour 140 d'entre elles, en tout cas, dans son île natale, Skiathos, et pour les autres, dans quelques quartiers populaires d'Athènes. Donc un écrivain sédentaire, et dont l'œuvre serait à l'image de sa sédentarité. À cela, il faut ajouter que Papadiamantis, ou plutôt il n'y a guère pour, pour les compatriotes de cet auteur, pour les Grecs, d'auteurs plus à ce point identifiés à la culture de son pays que Papadiamantis. Non pas tant parce qu'il s'agirait d'un auteur national, comme Solomos ou Palamas, comme Victor Hugo chez nous, mais parce qu'il est censé avoir représenté, avoir exprimé, j'emploie beaucoup de guillemets, l'âme populaire grecque. Hein, à ce point que on a souvent écrit que Papadiamantis était intraduisible, non pas à cause de la difficulté de sa langue, mais parce que, au fond, des étrangers seraient incapables de s'immerger dans ce qui est le plus précieux dans son œuvre, ce qui est le plus intime, en quelque sorte. Alors, il faut y voir de plus près, parce que, évidemment, si on en reste là, la question de l'Europe ne se pose pas, du rapport à l'Europe. Hein. On a un écrivain ethnocentré qui, au fond, certes aurait lu des romans européens, mais sur les plumes duquel, si je puis dire, ses influences auraient glissé sans laisser de traces. Alors cela m'a laissé dubitatif et je suis allé voir de plus près dans ses romans. Mais avant même de vous parler de ces trois romans, de donner en résumé l'argument simplement, et en orientant ma lecture vers le sujet de l'Europe, je veux rappeler que quand même, Papadiamantis, qui n'était guère payé pour les nouvelles qu'il donnait à divers journaux athéniens, avait pour tout viatique le métier de traducteur, hein, qu'il a exercé comme un stakhanoviste avant la lettre pour divers journaux athéniens, hein, traduisant depuis l'anglais et surtout depuis le français. Hein. Papadiamantis avait fait des études inachevées de littérature française à l'université d'Athènes. Les spécialistes n'ont pas recensé la totalité des traductions de cet auteur, tout simplement parce que la plupart du temps elles étaient anonymes, mais on sait qu'il a traduit Maupassant, qu'il a traduit Daudet, qu'il a traduit Anatole France, il a traduit des auteurs russes depuis le français, il a traduit Crime et Châtiment, il a traduit des romans de Turgenev. Comment peut-on imaginer un cloisonnement total entre un traducteur, un homme qui en tant que traducteur se fait le serviteur et le passeur vers son pays de la littérature occidentale, hein, et un écrivain qui serait entièrement replié sur sa culture d'origine? Cela me semble totalement invraisemblable. Et donc, il faut partir de cette énigme. À ce propos, à propos de mon incrédulité à l'égard du cloisonnement entre le traducteur et l'auteur, j'ai envie de vous citer une phrase d'Antoine Berman dans son livre « L'épreuve de l'étranger ». Qui écrit « La visée même de la traduction, ouvrir au niveau de l'écrit un certain rapport à l'autre, féconder le propre par la médiation de l'étranger, heurte de front la structure ethnocentrique de toute culture, ou cette espèce de narcissisme qui fait que notre société voudrait être un tout pur et non mélangé. Dans la traduction, il y a quelque chose de la violence du métissage. » L'essence de la traduction est d'être ouverture, dialogue, métissage, décentrement. Elle est mise en rapport ou elle n'est rien. Donc je vous propose de décentrer Papa Diamantis. Et je pense que c'est possible si on lit ces trois romans qui sont peut-être la partie mineure de son œuvre, mais qui, en quelque sorte, en constituent le socle. J'ajouterai quelque chose avant d'en venir à ces romans, c'est que cet écrivain a quelquefois évoqué son œuvre. Et lorsqu'il l'évoque, il va toujours dans le sens de l'orientation de son lecteur vers ce qu'il y a de plus grec en lui. Donc, avec un apparent conformisme à l'égard d'une espèce d'idéologie littéraire qu'on appelait lithographie en grec, l'étude de mœurs, Papa Diamantis est un auteur qui semble s'être plié à l'injonction officielle d'écrire sur la Grèce, de mettre en avant les mœurs pures de la Grèce, et donc son discours propre, le discours qu'il tient sur son métier d'écrivain, va dans le sens de l'ethnocentrisme aussi. Je vous cite un passage d'une nouvelle de Papa Diamantis intitulée en grec « Lambratikos Psaltis »,« Chantre de Pâques », où Papa Diamantis évoque sa littérature. Il écrit « Un Anglais, un Allemand, un Français peuvent être cosmopolites, anarchistes, athées ou toute autre chose. Ils ont accompli leur devoir patriotique. Ils ont bâti une grande nation. Désormais, ils sont libres de se payer le luxe de faire profession d'irréligion et de pessimisme. Mais un Grec d'aujourd'hui, qui entend passer publiquement pour athée ou cosmopolite, ressemble à un nain qui se hisse sur la pointe des pieds et qui essaie de se mettre à la hauteur d'un géant et d'en être un. La nation grecque, autant dans l'esclavage que dans la liberté, a et aura toujours besoin de la religion. Pour moi, tant que je serai en vie, tant que je respirerai, tant que j'aurai l'usage de ma pensée, je ne cesserai jamais de célébrer et d'adorer mon Christ, de décrire la nature avec amour et de dépeindre avec tendresse les pures traditions de la Grèce. » Passons sur la question de l'attachement de Papa Diamantis à la religion, qui n'est pas notre sujet aujourd'hui, question un peu taboue d'ailleurs en Grèce, et attardons-nous sur l'expression « les pures traditions de la Grèce ». Si l'envie vous prend de lire Papa Diamantis, ou si vous l'avez déjà lu, et je vous conseille de le faire si vous n'avez pas fait, vous comprendrez très bien que l'intérêt de ces nouvelles, ce n'est pas de peindre les pures traditions de la Grèce. Hein. Il s'en faut. Hein. Alors, on peut se demander pourquoi cet homme qui n'avait rien d'un conformiste a cru nécessaire de détourner, en quelque sorte, d'essayer de détourner le regard de ses lecteurs de la peinture, souvent satirique et souvent déprimante, des mœurs de son pays qu'il donnait dans ses nouvelles. Je pense que il l'a fait pour compenser une espèce de manque d'assurance identitaire qui s'était inscrite fatalement en lui dans une sorte de dualité à laquelle il était obligé entre sa littérature, inscrite dans un patrimoine national, et son métier de traducteur. Ce déchirement, parce que j'ai envie d'employer ce mot un peu fort, parce qu'il justifie en quelque sorte le fait que Papa Diamantis ait décidé à un moment de sa carrière de ne plus écrire que sur son île natale ou sur la ville dans laquelle il habitait. Ce déchirement se lit très bien, à mon sens, dans les trois romans par lesquels il a commencé sa carrière littéraire. Les titres même de ces trois romans, Imetanastis, le premier roman, L'émigré et eux, au féminin, ou les migrantes, et Emboleton en non, les trafiquants des peuples, Ieftopoula, la jeune gitane, le seul qui ait été traduit en français par Karine Corrécis, édité aux éditions Actes Sud, sous le titre La fille de Bohème. Donc ces trois titres, vous voyez, L'émigré, les trafiquants des peuples, la jeune gitane, manifestent assez ouvertement déjà que le déracinement, l'émigré, la gitane, les trafiquants des peuples, ce sont les Vénitiens dans le roman, le déracinement, la question de l'identité culturelle sont le véritable sujet de ces fictions. Voyons sommairement l'argument de chacun de ces romans. Dans les trois romans, d'ailleurs, le personnage principal, la protagoniste, est une jeune héroïne, comme si il s'agissait de reprendre trois fois un même personnage pour porter une même thématique. Alors, dans le premier roman, L'émigré, nous sommes au XVIIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, au moment où sévit à Marseille la fameuse épidémie de peste que vous connaissez sans doute, qui vit œuvrer l'évêque Belzunce, une orpheline, Marina Valgudi, qui vient de perdre ses parents, victimes de la peste, doit abandonner sa maison familiale à Marseille. Remarquons au passage que pour cet écrivain ethnocentré, la première page du premier roman se passe à Marseille, hein. Donc en terre étrangère, même si Marseille est une ville d'origine grecque. Donc cette Marina Valgudi est obligée et forcée, avec une certaine violence, par un ami de ses parents, de quitter Marseille pour qu'elle ne soit pas à son tour victime de la maladie. Elle doit s'y résigner, elle part sur le bateau de ce capitaine, et elle se dirige vers Smyrne, où elle va s'établir chez une amie de ses parents. Tout au long du trajet, on la voit pleurer dans les bras de sa nourrice sur la patrie abandonnée. Et on apprend très vite que, d'ailleurs, Smyrne, ville vers laquelle elle se dirige, et sa ville de naissance. Voilà 14 ans auparavant, elle avait émigré avec ses parents de Smyrne vers Marseille. Si bien qu'on se pose la question de savoir d'où Marina est émigrée. Où l'est-elle vraiment? C'est vers Marseille que la porte sa nostalgie, mais Marseille, c'est tout de même une ville étrangère. Et paradoxalement, elle va mourir, je passe sur les péripéties, d'une sorte de maladie de consomption qui masque mal la nostalgie. Elle va mourir dans une ville, Smyrne, qui est la ville où elle est née et qui est tout de même une ville plus grecque que Marseille. Il y a donc une ironie du sort qui fait mourir le personnage principal dans sa ville natale du regret d'un foyer perdu, et cela fait de Marina un personnage dont on ne sait plus du tout quelle est la patrie authentique, et il s'agit là, à mon sens, du véritable sujet du roman. On voit donc un auteur qui, celui-là même qui, quelques années plus tard, dans la citation que j'ai lue devant vous tout à l'heure, refusera le cosmopolitisme, on voit cet auteur fonder son premier roman sur un personnage qu'on peut qualifier d'apatride, hein, sinon de cosmopolite, et qui meurt d'une conciliation impossible entre deux terres, dont une terre occidentale, Marseille. Passons au second roman, donc Les trafiquants des peuples, et un bolet en un don. Ce roman superpose ou intrigue de manière explicite la terre natale et la terre d'exil. La terre natale grecque et la terre d'exil occidentale. Ce sera Venise dans ce roman. Nous sommes au début du XIIIe siècle, peu après la quatrième croisade, qui a vu le territoire de l'Empire byzantin partagé par les croisés, les Vénitiens ayant reçu, à la suite de ce qu'on a appelé la partition de la Roumanie, la Crète et les îles de l'Égée, les Cyclades, dans lesquelles ils ont fondé le duché de Naxos. Et nous sommes à Naxos. L'héroïne, Augusta en grec, appelons-la Augusta, est l'épouse d'un notable grec de l'île de Naxos, et elle est pourvue d'une double ascendance. Elle est née à Naxos, mais elle est par son origine, nous dit le texte, dès la première page, à moitié vénitienne. Or, c'est à Venise qu'elle va être transportée par son ravisseur, le duc vénitien de Naxos, personnage historique de Marcos Anudo, Marcos Anutos, hellénisé dans le texte. Le lecteur apprend à la fin du roman que ce prétendu rapte, auquel croit le mari d'Augusta d'ailleurs, n'en est pas un et cache une passion ardente d'Augusta pour le duc vénitien. En fait, on s'aperçoit très vite que Augusta est partagée entre deux hommes et entre deux terres. Elle aime passionnément le vénitien, mais elle est aussi attachée à son mari. Elle est séduite par Venise, mais attachée aussi à Naxos. Je vous cite une phrase. Elle aimait son mari et vouait une profonde affection à la belle île où elle avait vu le jour. Vous voyez, le mari et la terre natale se superposent, si j'ose dire. Donc l'attachement d'Augusta à Naxos est aussi fort que celui de Marina à Marseille dans le roman précédent. Mais pas plus que cette dernière n'est véritablement marseillaise, Augusta n'est pleinement naxienne et elle est renvoyée, comme Marina, vers une autre terre qui participe de son origine, puisqu'elle est à moitié vénitienne. Elle est tentée, comme Marina, par la terre qu'elle a quittée, un motif qui dans le roman se confond avec sa tendresse pour son mari, si bien qu'elle va se tirer des griffes du duc vénitien, s'évader de Venise, revenir en Grèce, devenir religieuse par repentir, vivre dans deux couvents successifs, à Patmos puis à Naxos. Et puis, apprenant un jour que le duc vénitien est sur son navire amiral, vogue dans les parages de Naxos, elle s'évade à nouveau du monastère pour rejoindre Sanudo, mais Sanudo n'est plus sur son navire que ses ennemis incendient. Et Augusta meurt dans cet holocaustoma, comme dit Papa Diamandis, dans cet incendie sur le navire amiral. Ce navire, d'ailleurs, il faut vous en dire deux mots, il a une histoire qui montre qu'il est consubstantiel au personnage et qu'il dit dans le roman sa destinée fatale. C'est un navire qui a été fait dans l'arsenal de Venise. Il appartenait à Sanudo. Moukras, le mari d'Augusta, l'avait capturé à la guerre, pendant la guerre contre les Vénitiens, l'avait fait sien. Voilà qu'un jour, le jour du rap d'ailleurs, il reçoit Sanudo chez lui et il lui restitue ce navire. Et c'est sur ce navire qu'Augusta sera transportée à Venise. Et c'est sur ce même navire qu'elle meurt à la fin. Donc, vous voyez, le motif de la double identité est partout dans ce roman. Le duc Sanudo, lorsqu'il se présente à son hôte, Moukras, le mari d'Augusta, lui dit « Je me nomme Marcos Anutos et je suis de Venise, ou plutôt je suis de Constantinople, puisque je suis né là-bas. » Tiens, Moukras, le mari d'Augusta, va essayer de retrouver son épouse à Venise. Il y aura de nombreuses péripéties dans le roman. Mais là-bas, il avance masqué et prend un nom latin. Il change d'identité lui aussi. Donc on a, dans tout le roman est parcouru par ce motif d'une appartenance incertaine. Ce n'est plus simplement le motif de la nostalgie qui fonde le roman, mais plutôt celui de la dualité d'origine et d'identité. Les Vénitiens, d'ailleurs, trafiquants des peuples, en tant que trafiquants des peuples, ne sont pas, aux yeux de l'auteur, un véritable peuple. Ils vont d'un peuple à l'autre, ils naviguent. Ils sont en entre-deux, en quelque sorte. Tout le roman travaille cette notion-là. Prenons le dernier roman, le seul traduit en français, donc encore une fois sous le titre « La fille de Bohème ». Le personnage central, le personnage d'Aïma, une jeune fille, paraît avoir été créé à dessein pour parachever la mise en forme romanesque de cette problématique de l'origine incertaine. Cette fois, l'origine de l'héroïne n'est plus duelle, elle est totalement effacée. Le roman est fondé sur l'attente d'une révélation de l'origine du personnage, une origine qu'Aïma elle-même ignore, mais que le lecteur ignore aussi, et une révélation, désolé de déflorer le roman, une révélation qui ne viendra jamais. Un long prologue, alors je résume l'argument. Un long prologue du roman nous montre le philosophe Georges Gémiste, dit Platon, une figure historique de philosophe byzantin du XVe siècle, qui avait proposé un retour à la religion antique, païenne, et qui, pour cette raison, avait été, on va dire, exilé à Mystra, dans le Péloponnèse. Georges Gémiste, Platon, est montré dans le prologue sacrifiant, dans le sens antique du terme, après une prière au dieu Ctonia, une jeune enfant qui précipite du haut d'un rocher. L'enfant tombe dans l'eau, ne se tue pas donc, est recueilli par un vieux soldat qui la confie aux soins d'une religieuse catholique. Fin du prologue. On retrouve l'enfant devenu une jeune fille dans la première partie du roman. Sans que cela soit dit explicitement, le lecteur devine que cette jeune fille qui vit aux abords de Bonnevassia dans le Péloponnèse, au sein d'une famille de gitans dont elle est censée être la fille, n'a qu'une identité d'emprunt. Elle-même le subodore. Hein, et elle a l'intuition que son origine n'est pas là. Et bien sûr, le narrateur appuie dans ce sens-là, il laisse même entendre dans une page que son origine pourrait être impériale, donc on ne peut plus grec. Son statut de gitane est un signe d'absence d'identité. J'ai envie de dire qu'elle est un peu la Leonarda de l'époque ou du roman. Les gitans, vous savez, au XIXe siècle en Grèce, étaient vécus comme un non-peuple, j'ai envie de dire. En tout cas, cette jeune fille est persécutée parce qu'elle est gitane. On lui lance des pierres, elle reçoit des quolibets. Elle souffre de cela. Et un jour, elle est enlevée. Elle est enlevée et enfermée dans un monastère catholique du Péloponnèse. On apprend très vite que c'est son ancien ravisseur, Platon, qui, la sachant rechercher, l'a placée dans cette famille de gitans pour qu'elle vive incognito, et qui, la croyant à nouveau menacée, lui trouve un refuge plus sûr, une sorte de prison, dans un monastère catholique, encore une fois, du Péloponnèse. J'insiste sur le fait que le monastère est catholique parce que Platon dans le roman de Papa Diamantis, je ne dis pas que ça correspond à la réalité historique, Platon, qui avait, et ça c'est une réalité historique, était en contact avec des émissaires du pape, à un moment où, vous savez, au milieu du XVe siècle, Byzance était très menacée, pour avoir un soutien politique et militaire de l'Occident, Platon est vraiment présenté ici comme le grec qui renie l'orthodoxie et qui non seulement restaure le culte païen, mais s'entend en sous-main, incognito, avec les latins. Il rencontre le cardinal Bessarion dans le roman, qui était un grec apostat, qui était passé du côté du pape. Alors, Aïma apprend un jour dans sa geôle par une nonne qu'elle apprend son histoire. Enfin, elle n'apprend pas la clé de son origine, mais elle apprend que cette religieuse est celle qui l'a recueillie et soignée enfant. Et dès lors, elle n'aura plus qu'une idée en tête, retrouver Platon, son protecteur, celui qui a voulu la sacrifier, pour obtenir la révélation de cette origine. Elle parvient à s'enfuir du monastère, grâce à son faux frère gitan, qui est amoureux d'elle. Elle parvient à la grotte, au repère de Platon, qui a, dans le Péloponnèse, alors ça c'est romanesque bien sûr, a transformé une caverne en temple antique avec des statues des dieux anciens, et au moment où elle va célébrer ses noces avec Marctos, avec celui qui était censé être son frère, et où elle doit entendre de la bouche de Platon le secret de son origine, voilà qu'un séisme qui coïncide avec la prise de Constantinople, fait s'effondrer la paroi de la caverne et Aïma meurt écrasée par une statue d'Athéna, je crois. En somme, Aïma, qui ne sait qui elle est, et pourrait-on dire un être de nulle part, hein, un être qui ignore tout de sa véritable identité, mais qui doit cette ignorance quand même à l'action d'un homme, Platon, qui est présenté dans le roman comme quelqu'un qui pactise avec l'Occident. Même lorsqu'il restaure le culte de l'Antiquité, on peut très bien penser, car beaucoup le pensaient à l'époque de Papa Diamantis, qu'après tout, le culte de l'Antiquité, c'est une importation occidentale en Grèce, dans la Grèce moderne. Cette homogénéité thématique des trois romans de Papa Diamantis est tout à fait troublante et elle ne peut être fortuite. On peut dire que même au fil de ces romans se dessine un approfondissement du caractère obsédant de l'identité incertaine, du motif de l'identité incertaine. Si on regarde plus précisément, il s'agit d'une conciliation difficile et même impossible et même mortifère entre l'identité grecque et l'identité occidentale. Alors, quelle hypothèse peut-on formuler? Ce n'est qu'une hypothèse, mais j'en avance une. Cet auteur qu'on a souvent présenté comme un parangon de la grécité, Papa Diamandis, était sans doute un homme habité par une double culture. D'un côté, la culture grecque orthodoxe, hérité de son milieu, son père était pop, hein, il s'est toujours présenté lui comme fidèle à la religion orthodoxe. D'autre côté, son propre culte de la littérature, au moins occidentale, une légende, ce n'est peut-être qu'une légende, dit que sur son lit de mort, sur son lit d'agonie, Papa Diamantis a demandé non pas un crucifix, mais Hamlet. Hein. En tout cas, non seulement son culte de la littérature, mais en tout cas sa pratique de traducteur. Hein. Et il est permis de penser enfin que cette dualité crée en lui une forme de tension qui l'a poussé à prendre la plume pour former des fictions dans le cadre du roman historique, susceptible d'exposer ce déchirement. Et, la fiction romanesque est un masque assez transparent de cette dualité douloureuse. Et cela permet en tout cas de lire la suite. Car le fait de changer de genre, d'aller du roman historique vers la nouvelle, d'inscrire ensuite tous les récits qu'il va écrire pendant plus de 20 ans dans son île natale ou dans quelques quartiers d'Athènes, c'est au fond un mécanisme de compensation. Je refoule, j'oublie cette dualité qui est la mienne, je ne parle plus que du microcosme dans lequel je suis né et dans lequel je vis. Alors voilà quelle est ma lecture, en tout cas, de ces trois romans. Il s'agit de trouver pour Papa Diamandis, au fond, un milieu, j'ai envie de dire, non contaminé par l'Occident. Parce que si, je n'ai pas le temps ici de vous parler d'autres nouvelles, Papa Diamandis, de nouvelles Papa Diamandis, mais il y a un motif qui apparaît souvent chez lui, c'est, au fond, ce qu'il appelle avec ironie souvent, au politismos en grec, la civilisation, qui désigne la civilisation occidentale. Il y a par exemple un récit qui a pour titre au politismos en langue savante istokorion, stokorio, la civilisation au village, où on voit une femme qui a du mal à nourrir son nouveau-né, délaissée par son mari un soir d'hiver, qui va au café jouer aux cartes, alors que sa femme se meurt presque, des suites de l'enfantement difficile et puis de cet allaitement difficile, où l'enfant va mourir. On voit cet homme aller jouer aux cartes avec des fonctionnaires grecs venus dans l'île d'Athènes. Le danger vient de l'extérieur chez Papa Diamandis. Et en même temps, il est, lui, tourné vers l'extérieur, puisqu'il traduit et puisqu'il lit avec appétit. Hein. Il y a donc cette ambivalence, cette contradiction, qui est, à mon sens, fondamentale chez lui. J'ai traduit l'an dernier, j'ai publié une nouvelle traduction française, le titre français est Gardien au Lazaret, Valdianos Saspolka, où une mère se rend dans un îlot qui est en face de Skiathos, un îlot qui est un peu une île déserte, ne vit qu'un moine qui cultive quelques chèvres et qui fait un peu de culture maraîchère sur cette île, un véritable îlot qui est face au port de Skiathos, et cet îlot vient d'être transformé en lazaret parce qu'une épidémie de choléra s'est déclarée à Constantinople et à Smyrne. Cette vieille femme, Skevo, apprend que son fils risque d'être, qui est marin, risque d'être dans sur l'un de ses navires, et donc au lazaret. Elle se déguise en homme pour être acceptée comme gardien au lazaret, au masculin. Elle finira par sauver son fils. Mais il est clair dans la nouvelle que le choléra vient menacer l'île un peu, une île presque déserte à la Robinson, où il n'y avait à l'origine qu'un habitant. Donc, voilà pour ce que l'on peut trouver, à mon sens, dans le début de l'œuvre de Papa Diamantis, et qui, chez un auteur, apparemment, on ne peut plus ethnocentré, qui refuse le cosmopolitisme, comme il dit, signe la difficulté à se positionner face à la littérature occidentale. Alors, passons à Georges Vizinos. On a affaire à un écrivain, là, dont la biographie est radicalement différente, voire aux antipodes de celle de Papa Diamantis. Je ne vais pas vous raconter sa vie. Disons que grâce à... il naît déjà dans un milieu bilingue en Thrace occidentale, donc en Turquie d'Europe actuelle. Grâce à un mécène grec, le banquier Georges Zarifis, il peut d'abord publier ses poèmes qui vont faire sa célébrité. Vizinos était d'abord connu de son vivant en tant que poète. Et puis, il pourra publier une demi-douzaine de nouvelles qui interviennent dans sa carrière littéraire après la poésie, après un abandon de la poésie, de même que Papa Diamantis délaisse le roman pour la nouvelle, Visinos délaisse définitivement la poésie pour la nouvelle, qui fera d'ailleurs sa célébrité posthume. Déçu par ses études à Athènes, études de philosophie, Visinos, grâce à l'aide de Zali, fils, va faire des études en Allemagne, dans diverses universités allemandes, à Tübingen, à Leipzig, à Berlin, et il écrira deux thèses d'ailleurs, l'une de psychologie sur le jeu chez l'enfant, et une de philosophie sur la philosophie du beau chez Plotin. Il écrira ces thèses, bien sûr, en allemand, puisqu'il les soutient devant des universités allemandes. Voilà un auteur qui a vécu à l'étranger. Il revient ensuite à Athènes, n'obtient pas le poste universitaire qu'il ambitionnait, vit d'expédient, voyage de nouveau en France, en Angleterre, en Allemagne, et revient en Grèce quelques années, et à l'âge de 44 ans, il perd la raison et il est enfermé au Dromocaïtio, à l'asile psychiatrique de Daphni, près d'Athènes. En 1892, c'est sa mort littéraire, pourrait-on dire, et il meurt 4 ans plus tard. Alors, chez cet auteur, de manière tout à fait explicite, on a une déchirure patente qui s'exprime dans ses fictions, qui sont largement autobiographiques, entre la culture grecque originelle et la culture occidentale. Je n'ai pas le temps ici de parler de toutes les nouvelles. Je peux au moins en évoquer une, peut-être deux, nous verrons. En tout cas, les deux nouvelles dont j'entendais vous parler, ce sont, je cite les titres en français pour aller plus vite, « Les séquelles des amours anciennes » et « Moskov Selim ». « Les séquelles des amours anciennes », 1884, la date à laquelle Papa Diamantis écrit Yves Topoul, la jeune gitane d'ailleurs, et Moskov Selim, publié en 1892. Ces deux nouvelles ont un point commun. Elles disent les souffrances et la mort d'un personnage qui délaisse sa culture originelle, sa culture initiale, ou qui tente plus exactement de la délaisser, sans vraiment y parvenir, pour une culture étrangère totalement idéalisée. Le grec Paschalis, qui tente de se faire allemand, et le turc Selim, qui tente de se faire russe. Je prends surtout la première nouvelle, parce que, bien sûr, l'Allemagne, c'est l'Europe occidentale. Alors, le narrateur, dans ces nouvelles, est un jeune grec, parti comme l'auteur, d'ailleurs, étudier la psychologie clinique à Göttingen, et on le découvre dans les premières pages devant l'épreuve redoutable du changement de climat, nous sommes en hiver, et de culture. Le lecteur apprend d'emblée que le jeune homme a beaucoup de mal à s'adapter à ce pays, à cette terre dont il maîtrise mal la langue, dont la rudesse du climat lui est difficile, le rend malade d'ailleurs. Il consulte un médecin pour sa toux chronique. Ce médecin se trouve être aussi son professeur de psychologie clinique. Et avec ce médecin professeur, tous deux vont visiter l'hôpital psychiatrique de la ville, et tous deux s'intéressent particulièrement à une jeune patiente prénommée Clara, une nouvelle arrivante venue du duché de Bade, victime d'un désespoir amoureux, nous dit le texte. Les propos que tient cette jeune femme montrent qu'elle souffre d'avoir été délaissée par un fiancé. Et le texte nous apprendra au lecteur un peu plus loin, que ce fiancé n'est autre que Paschalis, un autre étudiant grec que le narrateur, qui est un ami du narrateur, et que le narrateur voudrait aller rejoindre dans la ville où il se trouve en Allemagne. Le discours délirant de Clara met ce fiancé face à un défi insurmontable, celui d'aller chercher sous la terre les diamants des deux bagues de fiançailles. C'est ce que nous savons du délire de Clara dans le texte, et ça se limite à ça. Il est parti, dit-elle, creuser la terre pour dénicher les diamants de nos bagues de fiançailles, des diamants énormes. Il doit espérer trouver des diamants énormes, voilà pourquoi il est si long à revenir. Dans le contexte du récit, je passe sur les détails bien sûr, on comprend très vite que l'idéal figuré par ces diamants dont l'éclat, la clarté, bien sûr, renvoie au nom de Clara, est sans aucun doute la culture allemande qu'à l'évidence cette jeune femme représente. Or, Pascalis, l'ami grec du narrateur, cherchera à atteindre cette germanité idéale ou cherchera à l'atteindre, j'ai envie de dire, au pied de la lettre, ou prendre l'expression du délire de Clara au pied de la lettre, puisque cet étudiant en minéralogie va descendre quotidiennement au fond d'une mine et finira par y mourir. D'ailleurs, l'auteur donne à cette mine le nom de Carolina, nom dans lequel on retrouve les lettres du prénom de Clara. La seconde partie de la nouvelle est consacrée à l'histoire de Pascalis. Son récit est précédé par un entretien entre le narrateur et le médecin, professeur, sur lequel je veux m'attarder 2-3 minutes, parce qu'il éclaire l'ensemble de la nouvelle. Au moment où ce médecin autorise son patient étudiant à rejoindre dans le Harz, le climat est encore plus rude, son ami grec, le professeur donc oppose cette montagne du Harz au Parnasse grec. Et on apprendra dans la suite de la nouvelle, ou plutôt le narrateur apprendra de son ami Pascalis, que c'est justement dans cette montagne que Goethe a composé une partie de son Faust, et c'est là qu'il a placé la fameuse nuit de Walpurgis. Or, pour le professeur, cette montagne, symbole de ce que la littérature allemande a de plus célèbre, est extrêmement inquiétante et dangereuse. Le professeur dit à son étudiant: je vous autorise à monter aussi haut que vous le pouvez sur l'éclatant Parnasse, mais cela ne vaut pas pour les cimes nuageuses de notre Harz à nous. Car si vous ne verrez pas là-haut des muses couronnées de violettes ou de radieux Apollon, vous y rencontrerez tout de même une foule de striges de Kélékenzar, ainsi que tous ces démons médiévaux qui ont inspiré à notre grand classique, à notre très homérique Goethe, ce passage glacial et sinistre du Faust. Cet entretien semble avoir surtout pour fonction de prévenir le lecteur que cette histoire va très mal se passer et place la future rencontre des deux amis grecs sous de fâcheux auspices. D'ailleurs, le médecin ajoute « Mais c'est le défaut de tous mes amis grecs, ajouta-t-il ensuite, dans un sourire, depuis Ulysse jusqu'à votre docte personne. Vous ne pouvez vivre séparés les uns des autres. Vous ne pouvez oublier que vous êtes à l'étranger. » Vous restez entre grecs, en quelque sorte. Et en même temps, un peu plus loin, dans le même dialogue, le médecin ajoute, à l'adresse du narrateur, « Faites de nécessité vertu, vivez aussi longtemps que la belle saison vous en laissera le loisir à Osterode ou dans un autre village du Harz, que je vous ai recommandé l'autre jour, mais vivez avec les Allemands, comme un Allemand, et vous verrez tout le profit que vous en tirerez. » Il s'agit de vivre comme un Allemand, de se faire Allemand. J'ai envie de dire que la barre de l'assimilation est placée très haut. Dans cette partie du récit, d'ailleurs, on revient par une flashback sur les années d'études de ces deux jeunes Grecs à Athènes. On apprend que le narrateur a connu des amours malheureuses, délaissé par la fille de sa lingère qui l'a trompé, et qu'il est parti, on apprend qu'il est parti en Allemagne un peu pour cette raison. De là, le titre, la nouvelle, les séquelles des amours anciennes. On y apprend aussi que ces deux jeunes gens, déçus par l'enseignement universitaire à Athènes, ont très envie de connaître l'Allemagne et, j'ai envie de dire, de devenir allemand. Vous voyez ce qui est écrit, il s'agit d'une phrase que Pascalis adresse à son ami. « Pourtant, se reprit bientôt Pascalis, les choses ont changé. Il fait allusion à une visite à une brasserie où les deux amis avaient bu de la bière quelques mois auparavant. Pourtant, se reprit bientôt Pascal, les choses ont changé. Cette fois, il ne s'agit plus de simplement singer les mœurs étrangères ou de parodier les scènes tragicomiques de l'ivresse allemande, mais de nous pénétrer de ces lieux où le dramaturge, si tempérant de ce pays, a imaginé les scènes tellement magiques et fabuleuses de Faust. Du reste, quand le narrateur arrivait à Clausthal, la ville où son ami étudiant en minéralogie fait son stage, il l'aperçoit, le jeune homme, dans sa tenue de mineur. Et il le compare à cette occasion à une créature de la mythologie allemande. Coiffé de son bonnet qui lui tombait sur l'épaule, portant le falot des mineurs au-dessous de sa poitrine, les hanches ceintes d'un tablier de cuir et son rutilant manteau posé sur l'épaule, il me faisait penser à l'une de ces créatures bienfaisantes de la mythologie allemande, aux bons soins desquelles on aurait confié la tâche d'extraire et de garder les trésors de la terre. À ce moment-là, le lecteur ne peut manquer de penser, de rapprocher ce portrait de Pascal Isse par son ami, porté en créature mythologique chargée d'extraire et de garder les trésors de la terre, de ce fiancé parti chercher des diamants au centre de la terre qu'évoquait Clara. Pascal, au fond, a fait sienne la mission d'incarner la germanité mythique que lui a suggérée ou même assignée sa fiancée. Il raconte, Pascal, il se raconte alors à son ami qu'à son installation en Allemagne, il s'est attiré la sympathie d'un professeur, de l'un de ses professeurs, un veuf qui avait perdu sa femme depuis peu et qui ne recevait plus personne et qui avait fait une exception pour lui. Chez ce professeur avait une fille très belle, prénommée Clara, le lecteur reconnaît la jeune femme enfermée à l'hôpital psychiatrique, et cette jeune fille manifeste très vite son intérêt pour ce jeune grec. Un jour, Clara, qui vient d'assister à une représentation du vaisseau Vantom de Wagner, avoue à Pascal Isse que le Hollandais volant figure l'idéal de beauté de toutes les Allemandes, et tout particulièrement le sien, et elle lui apprend aussi, elle lui laisse entendre plutôt, qu'il est à ses yeux, lui le grec, l'étranger, l'incarnation parfaite de cet idéal. Cet amour, au fond, symbolise bien sûr l'assimilation parfaite à l'idéal germanique. Cet amour est partagé, et pourtant, Pascal Isse va s'y refuser. Il s'y refuse en raison de la souillure qui, à ses yeux, de la souillure qui est à ses yeux cette idylle qui s'est mal terminée à Athènes. Mais quelle espèce d'amour avais-je à lui offrir, moi, les lavures de ma blanchisseuse, dit-il à son ami. Donc l'étudiant finit par ne plus venir du tout chez Clara et s'impose le douloureux sacrifice d'un amour partagé, tandis que la jeune fille s'enfonce dans un état de prostration que l'on impute à tort à son deuil récent après la mort de sa mère. Donc la logique du personnage de Pascal Isse l'enferme dans une impasse. Son idéalisation de la culture allemande lui interdit précisément de se l'approprier au moment où cette assimilation lui est offerte, j'ai envie de dire, sur un plateau, hein, et de se l'approprier pleinement parce que elle irait de pair, ou elle va de pair dans son esprit, avec une dépréciation totale de son passé grec. Continuer à voir et à aimer Clara, ce serait en effet à ses yeux déprécier l'objet même de son admiration par une espèce de risque de contamination, j'emploie le même mot que Papa Diamandis. Hein. Il confesse à son ami le narrateur, par exemple, « Je songeais que si elle me pardonnait mes amours anciennes, si elle continuait à m'aimer tout en connaissant ma bassesse morale, elle s'en ferait la complice, elle s'avilirait elle aussi, et disparaîtrait alors ce socle idéal au sommet duquel je contemplais si pieusement l'objet de mon admiration. Pascal quitte Fribourg, la ville où il faisait ses études, pour un stage pratique dans la ville minière de Clausthal, où le narrateur l'a rencontré. C'est le moyen tout trouvé de ne plus revoir la jeune fille. Mais dès son arrivée, il trouve une lettre d'une parente de Clara qui le presse de se précipiter auprès de la jeune fille pour lui éviter une mort certaine. Quelques jours plus tard, cependant, avant même son départ pour Fribourg, sur l'injonction de cette première lettre, il reçoit du père de Clara une autre lettre qu'il comprend comme lui annonçant la mort de la jeune fille. Le texte se joue en réalité sur une méprise. Le professeur a voulu lui apprendre à mots couverts que sa fille a perdu la raison et qu'elle a été internée, mais sa missive, rédigée de manière équivoque et ambiguë, dit le texte, est interprétée par l'étudiant comme l'annonce du décès de la jeune fille. Je vous lis le texte, il est très court d'ailleurs. « Mon cher Pascalis, j'ai le triste devoir de vous annoncer moi-même que j'ai bien reçu la lettre que vous avez eu l'obligeance d'écrire à ma pauvre Clara. Un malheur imprévu a voulu m'enlever l'unique soutien de mes vieux jours malades et vous priver d'une amie qui, je n'en doute point, aurait eu grande joie à répondre à votre lettre. Je vous en prie, unissez aux miennes vos prières au Très-Haut. » Se sentant responsable de la mort de la jeune fille, Pascalis a sombré alors dans l'état de profond désespoir dans lequel son ami l'a trouvé en arrivant à Clausthal. Le narrateur, bien sûr, est en mesure de dissiper la méprise, puisque lui a tout compris, le lecteur aussi, bien sûr, mais le narrateur a tout compris, il a vu Clara vivante dans l'hôpital, mais il a beau expliquer à son ami cela, celui-ci ne veut rien comprendre. Il se mure dans une sorte de déni. Et de toute façon, le narrateur finit par se dire que c'est mieux ainsi. Mieux vaut laisser cet ami dans une erreur qui n'est pas plus triste que ne serait la révélation de la vérité. Quelques jours plus tard, Pascalis meurt en voulant secourir des mineurs qui sont pris dans une inondation due à des puits diluviennes. Le texte insiste sur le fait que Pascalis meurt en exil, loin des siens. Je vous lis la phrase par laquelle cette mort est inscrite dans le récit. « Loin de notre chère patrie, loin de l'affection de sa mère, loin de ses parents et de ses proches, j'avais été là du moins pour fermer ses yeux fatigués et mettre son corps en terre. » Cette nouvelle montre avant tout que le mariage des deux cultures ne peut avoir lieu. L'une, la culture grecque d'origine, est dépréciée. Le texte insiste assez longuement, c'est presque un excursus dans le récit, sur l'insuffisance de l'enseignement supérieur à Athènes. Les amours malheureuses avec la fille de la lingère sont bien entendu une cristallisation de cette dépréciation de la Grèce. L'autre culture, c'est la culture occidentale, allemande en l'occurrence, qui est, elle, idéalisée à l'excès, si bien que l'écart extrême ainsi créé dans l'esprit du personnage suscite en lui un profond sentiment d'indignité. En somme, on pourrait dire que dans l'esprit de Visinos, le brassage des deux cultures est pratiquement impossible, non pas tant parce que ces deux cultures seraient radicalement différentes, culture grecque et culture allemande, mais parce qu'intervient un écart d'appréciation de leur statut et de leur dignité qui va jusqu'à les faire percevoir comme exclusives l'une de l'autre. En somme, pour Visinos, l'écart culturel est problématique en tant que réalité psychologique. Et bien sûr, on devine, quand on connaît un peu l'histoire culturelle de la Grèce ou de l'Europe, que comment cette idée a germé dans l'esprit de l'auteur. On connaît l'aura de la culture allemande à la fin du XIXe siècle. On sait ce qu'était l'État grec naissant et tout petit État encore en train de se former. Il y avait une disproportion entre, j'ai envie de dire, le centre et la périphérie. Et il semble que Visinos soit quelqu'un qui se soit imprégné de cet écart-là. Je n'ai pas le temps de parler de la seconde nouvelle. Non, je ne sais pas. Non, non. Alors, simplement, je veux conclure très rapidement. Un dernier exemple en une minute. Vous avez une autre nouvelle dont le titre en français est « Qui était l'assassin de mon frère ?» où le narrateur, comme Visinos, un jeune homme qui est allé faire ses études en Allemagne et qui revient chez lui en Thrace-Orientale. Chez lui, que trouve-t-il ? Une mère qui ne le reconnaît plus. Elle dit d'ailleurs à un paysan de voisin, « Oh, mais il a changé de nom !» Parce que Visinos ne s'appelait pas Visinos, c'est son nom de plume. Hein. C'était le fils de Mikhaïl, mais bon, maintenant il écrit dans les journaux, « Ce n'est plus mon fils. » Et cette mère héberge chez elle un jeune Turc, Kamil, dont elle ne sait pas, mais dont le lecteur sait, et dont, dont le narrateur sait, qu'il est l'assassin, ça c'est involontaire, mais l'assassin de son frère, dont l'assassin de l'autre fils de cette femme. Autrement dit, de retour d'Allemagne, le narrateur de cette nouvelle trouve, j'ai envie de dire, sa part orientale, hein, dépréciée, de manière horrible d'ailleurs, qui a pris sa place, hein, dans le foyer familial. Donc c'est là un thème très, j'ai envie de dire, fondateur chez Visinos. Alors, pour conclure sur l'ensemble, encore une fois, je vais un peu redire ce que j'ai dit pour commencer. Chez deux auteurs très différents, quand même, même s'ils ont pratiqué le même genre et s'ils sont contemporains, on voit que la question de la conciliation entre la culture première grecque, donc, et la culture acquise par les livres chez Papa Diamandis, par le voyage aussi pour Visinos, est quelque chose de très difficile et d'assez important pour être inscrit dans l'œuvre, certes de manière un peu cryptée, mais par Papa Diamandis dès les premiers écrits et par Visinos par les derniers écrits après un changement de genre littéraire. Et on peut dire que cette conciliation, c'est même une aporie. Ça conduit à la mort, en quelque sorte, hein, dans les deux cas. Et pour conclure simplement, je dirais que, puisque ici nous allons parler de la Grèce et de l'Europe aujourd'hui, cet excursus vers le passé, il a au moins le mérite de nous montrer que la question du rapport de l'écrivain grec à l'Europe n'apparaît pas à l'occasion de la crise actuelle ex nihilo. C'est une question qui s'est posée à beaucoup d'écrivains grecs. On pourrait en citer d'autres. Je ne sais pas, Yanis qui est là, écrit sur Séphéris et l'Occident. Il faut y mettre, bien sûr, il faut mettre à l'analogie tous les bémols nécessaires. Encore une fois, le rapport du centre à la périphérie, qui était celui de la culture occidentale à la culture grecque au XIXe siècle, est une notion qui n'a plus de sens aujourd'hui. La hiérarchie des cultures, ou la hiérarchisation des cultures, qui était une réalité quand même au XIXe siècle, ou même la pertinence de la notion de culture nationale, sont des choses tout à fait désuètes, obsolètes de nos jours. Il n'empêche que la question n'est pas fondamentalement nouvelle. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup René Boucher pour cette belle approche de ces deux grands écrivains grecs, fondateurs de la littérature moderne grecque. Pour conclure, une courte nouvelle donc de Papa Diamantis, traduite par René Boucher et puis lue par Baptiste Roussillon.
Sous le chêne royal. Juste une petite chose pour dire que en grec, le chêne se dit dris et que c'est un nom féminin. Et c'est important de le savoir. Quand, dans mon enfance, je passais tout près de là sur le dos d'un âne pour aller goûter au plaisir de nos fêtes champêtres à Pâques, à la Saint-Georges ou pour le 1er mai, je me laissais aller à une douce rêverie, sans jamais me lasser d'admirer un arbre magnifique, gigantesque et solitaire, un chêne royal. Quelle majesté ! Ses branches d'un vert sombre, épaisses et puissantes, ses rameaux recourbés comme un profil d'aigle, touffus comme la crinière d'un lion, se détachaient sur le ciel et y dessinaient la couronne d'un roi. C'était un prince d'une sauvage beauté, le souverain de la chênaie, le roi de la fraîcheur. Ses feuilles distillaient et répandaient autour de lui la manne de vie, la rosée de douceur, le miel du rocher. Sa sève vivifiante attisait la sublime vigueur de l'amour et son superbe feuillage inspirait le désir d'une volupté sans mélange. Et sa cime à l'épaisse chevelure se dressait pareille à une couronne virginale, un diadème divin. J'éprouvais une émotion indicible à contempler cet arbre majestueux. Il éblouissait le regard, résonnait dans l'oreille et murmurait à l'âme une musique au charme ineffable. Ses rameaux, ses branches, son feuillage semblaient, quand le vent les agitait, entonner le psaume « Que tes œuvres sont grandes ». Il m'enchantait, il m'attirait, il m'appelait à lui. Je désirais sauter de mon bas, courir vers lui, profiter de lui. Aller enlacer son tronc, quand bien même il aurait fallu pour cela 5 enfants comme moi, et lui donner un baiser. Je brûlais d'entreprendre l'escalade de ce tronc gigantesque, sombre et robuste, d'atteindre ses premières branches et de m'élever jusqu'à leur extrémité. Et s'il ne voulait pas de moi, s'il m'éloignait de son corps et me jetait à terre, alors peu m'importait si je devais tomber, me rouler dans l'herbe, m'abriter sous son ombre, sous le fronton que dessinaient ses branches semblables à la couronne de David, le roi inspiré de Dieu. Tel était mon désir. Mais les parents qui m'accompagnaient dans ces excursions à travers les montagnes ne m'auraient jamais permis de le réaliser. Un jour pourtant, pour l'une des fêtes de l'année du Seigneur 1860, après être passés près de l'arbre, nous nous sommes rendus au Grand Enclos. Le Grand Enclos était un modeste hameau qui, l'été, abritait les bergers de l'endroit. 7 ou 8 familles de paysans y vivaient. 2 d'entre elles étaient liées à mes parents qui avaient eu chez elles un filleul ou un métayer et nous les considérions tous comme des amis et des compatriotes. C'était là que nous descendions habituellement pour les fêtes de Pâques, puis de la Saint-Georges et du 1er mai, et parfois aussi pour la Saint-Constantin et pour l'Ascension. Sur une ravissante colline se dressait la chapelle de Saint-Jean l'Évangéliste où nous allions pour l'office. Nous étions donc allés là-bas, cette année-là, et le charme de l'arbre magique m'avait subjugué plus que jamais. Comme il n'était qu'à une demi-heure de marche du Grand Enclos, nous ne passions pas très loin de lui. Notre chemin qui prenait à flanc de coteau et qui coupait la montagne en biais passait au-dessus de l'endroit où l'arbre se dressait. Et le chêne royal, que je ne perdais pas de vue pendant un long moment, m'enchantait et m'appelait, comme l'aurait fait une créature vivante, une jeune vierge de la montagne. Selon les inflexions du chemin, les creux et les bosses du terrain, les mouvements imprévisibles et entêtés de mon âne, selon que je m'éloignais ou me rapprochais du chêne après l'avoir aperçu une première fois, l'arbre changeait sans cesse d'aspect, de perspective, de proportion. Vu de côté et de loin, il prenait une grâce élancée. De face et de près, il apparaissait dans toute sa force, sa plénitude, sa couleur d'un vert sombre et faisait penser à une jeune mariée. Toute la nuit, je ne cessais de me réveiller et de me rendormir, et de rêver à ce grand chêne merveilleux. Ce matin-là, celui du samedi saint, le laurier et le romarin parfumaient la chapelle. Des mains d'enfants avaient fait sonner à toute volée la petite cloche suspendue au-dessus de l'auvent de la toiture de l'Ose et avaient salué à leur façon le Dieu ressuscite que le pope avait entonné en jetant sur les fidèles des pétales de roses et de violettes. C'est alors que, juste avant la fin de l'office, je disparus. Je pris un sentier de traverse dérobé au regard que j'avais découvert la veille et me mis à gravir le versant de la montagne en me dirigeant vers l'endroit où se trouvait le chêne royal. Je pensais bien connaître mon chemin. Il montait d'un bout à l'autre et je courais à perdre haleine pour arriver au plus vite, embrasser ma bien-aimée, car ce chêne fut mon premier amour d'enfance, et revenir tout aussi vite sur mes pas. Je m'imaginais que mon absence passerait inaperçue et que je n'aurais pas à affronter les réprimandes de mon entourage. J'étais alors un enfant de 12 ans. Arrivé à un carrefour, je pris le sentier qui montait à gauche et à bout de souffle, j'arrivai au sommet de la montagne. Heureusement, Je trouvais dans le grand chêne un bienfaiteur et un tuteur. C'est lui qui me tira d'erreur. Il semblait me faire signe de loin et guider mes pas vers lui. Dès que je l'aperçus en contrebas, assez loin à ma droite, je quittai le sentier sur lequel je courais et prenant direction du couchant, je descendis à travers champs. Je sautais par-dessus des murs de pierres sèches, des fossés, des haies de broussailles et de ronces, me taillais de tout le corps, m'ensanglantais pieds et mains, et je finis par arriver auprès de la dryade des bois chers à mon cœur. J'étais fourbu, en nage, hors d'haleine. À peine arrivé, je me jetais sur l'herbe, me roulais sur les coquelicots et les fleurs des champs. J'éprouvais cependant un bonheur secret, un plaisir merveilleux. Je rêvais en levant les yeux vers les branches épaisses. J'ouvrais et fermais mes lèvres avec volupté au souffle de la brise qui faisait bruire le feuillage. Des centaines d'oiseaux venaient chercher le repos dans la ramure et entonnaient des chants débridés. La fraîcheur, le parfum et la joie faisaient fondre mon cœur. J'étais harassé. J'avais passé une mauvaise nuit et je manquais de sommeil. À l'ombre de l'arbre gigantesque, dans ma couche écarlate de coquelicots, Morphée vint me bercer et me montrer des images comme à un enfant curieux. Il me sembla que l'arbre, car je conservais dans mon sommeil la notion d'arbre, changeait peu à peu d'apparence, d'état et de forme. À un moment, je crus voir à la racine du chêne deux jambes bien galbées, collées l'une à l'autre, qui ensuite se décollaient peu à peu et finissaient par se séparer. Le tronc me parut se remodeler pour prendre la forme d'une taille, d'un ventre, d'une poitrine aux deux seins retroussés avec grâce. Les deux plus grosses branches me semblèrent deux bras, deux mains tendues vers l'infini du ciel, qui redescendaient ensuite avec condescendance vers le sol où j'étais étendu. Et le feuillage, ce sombre, persistant feuillage, prit l'apparence d'une abondante chevelure de jeune fille relevée vers le haut pour se dénouer ensuite et retomber en ondoyant. J'en tirai dans mon rêve une conclusion qui, pour être formulée au milieu du délire, n'en prenait pas moins la forme d'un raisonnement. Eh bien, ce n'est pas un arbre, c'est une fille. Et les arbres, tous les arbres que nous voyons, ce sont des femmes. Quand je me réveillais, peu après, mon rêve m'avait remis en mémoire l'histoire de l'aveugle guéri par le Christ que j'avais entendu de la bouche de notre instituteur en cours d'histoire sainte. Au début, il vit les hommes comme des arbres. Ce n'est qu'ensuite qu'il les vit distinctement. Mais je ne me réveillais pas avant d'avoir entendu parler cette apparition. Le chêne fille avait une voix qui me disait « Dis-leur de ne pas m'abattre. Je ne voudrais pas causer un malheur malgré moi. Je ne suis pas une dryade immortelle. Je ne vivrai qu'autant que l'arbre vivra. » Je me réveillais épouvanté et quittai l'endroit. Il était déjà midi et le soleil était à son zénith. Ses rayons ardents tombaient à la verticale sur la cime du chêne qui lui opposait son ombre impénétrable. Depuis la colline d'en face, j'entendis une voix m'appeler par mon nom. C'était un jeune berger drapé dans sa houppelande, sa houlette à la main qui poussait devant lui une dizaine de chèvres. Il me cria que mon père, éperdu d'inquiétude, me cherchait partout et que je ferais mieux de courir, de retourner là-bas au plus vite. Sur le coup, je n'ai rien compris à ce rêve prophétique. Je n'ai appris que plus tard, dans un manuel de mythologie, que l'âme dryade meurt avec l'arbre dans lequel elle s'est incarnée. Bien des années plus tard, quand au retour d'un long exil, je suis revenu dans mon village et suis allé revoir ces lieux en guise de pèlerinage vers mes souvenirs d'enfance, je n'ai même pas pu retrouver l'emplacement du chêne royal, de l'arbre magnifique et majestueux, de la dryade souveraine des bois. Une vieille femme qui filait en faisant paître deux brebis dans un champ voisin se tenait près de là, assise devant son humble cabane. Quand je lui ai demandé ce qu'était devenu le grand arbre qui autrefois se dressait à cet endroit-là, elle m'a répondu « Le pauvre Varieneis l'a abattu. On n'y est pas allé de main morte avec sa cognée. Rien que des arbres énormes qui vous réservent toujours quelque chose. Mais ça lui a pas porté chance de l'avoir abattu. Il est tombé malade et il est mort quelques jours après. Le grand arbre était hanté.
Merci beaucoup, René Boucher et Patrice Roussillon.